voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Juliette. Ce soir, les débuts dans la vie, de Paris à Toulouse.
Juliette Noureddine, bonsoir. Toute cette semaine, nous allons dérouler ensemble votre carrière artistique et professionnelle, en essayant aussi de mieux connaître votre histoire personnelle. Vous êtes une auteure, une parolière, une compositrice et une interprète de chansons françaises. Vous êtes sur les routes des salles de spectacle depuis une trentaine d'années en France, en Europe, mais aussi au Maghreb et au Canada. Et vous avez publié une quinzaine d'albums. Le dernier en date s'intitule « J'aime pas la chanson », un impératif un peu provoque qui rappelle votre passage sur les ondes de Radio France et qui invite dès le départ ceux qui vous écoutent à ne pas rester plus longtemps sur le pas de votre porte. Alors avant que l'on ne s'installe chez vous pour découvrir davantage votre univers artistique, vos influences et votre propre histoire, vous rêviez de faire quoi quand vous étiez une enfant, Juliette Noureddine ?
Quand j'étais une enfant, je pense que je rêvais de devenir écrivain, à vrai dire, parce que c'est la première activité artistique à laquelle je me suis adonnée de moi-même. J'ai fait de la musique parce que mes parents pensaient que c'était bien que les enfants fassent de la musique. Ma grand-mère elle-même avait éduqué mon père dans ce sens, il était devenu musicien. Donc on avait cette formation. La musique pour moi était une obligation scolaire presque, au départ. Et quand j'étais petite fille, je pense que je rêvais d'être écrivain. Puisque c'est un mode d'expression que j'ai découvert par moi-même. Le jour où j'ai appris à écrire, je pense que l'année suivante, dès que j'ai su vraiment écrire, je lisais beaucoup déjà. Ma mère m'avait appris à lire à voix basse dans mon lit, donc je dévorais des tas de bouquins. Alors ça, évidemment, des bouquins pour enfants, mais genre Le Club des Cinq, L'Intégrale de la Comtesse de Ségur, etc. J'étais assez dévoreuse de livres. Et puis, je mettais un peu le nez dans la bibliothèque de ma mère, donc j'ai lu des trucs qui ne m'intéressaient absolument pas, mais qui n'étaient pas de mon âge, mais qui m'intéressaient pas du tout et qui n'étaient pas pour le côté interdit, c'était pour le côté curieux, surtout. Et à partir du moment où j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire la suite des livres que je lisais. Donc, mon premier roman, ça devait être Le Club des Cinq chez la Comtesse de Ségur, évidemment. Mes premiers écrits personnels, un cahier, un crayon, j'étais très heureuse. Et j'ai fait ça très longtemps. Donc je pense que quand j'étais petite, ça faisait partie des choses possibles. Mais je ne sais pas si quand on est petit, on n'est pas autre chose qu'un rêveur, quoi, en fait. Donc on rêve à devenir écrivain, à jouer, à être aventurier, pilote d'avion, pompier, etc. On n'a pas... même si on vise... un grand domaine. On sait qu'on va être plutôt dans la science ou plutôt dans l'art ou plutôt dans etc. Je crois qu'on n'est pas du tout capable d'avoir une vocation à 6 ans quand même. Faut pas. Je crois pas. Les vocations bougent encore, mais on vise des domaines, je pense quand même.
Alors Juliette, vous êtes née à Paris le 25 septembre 1962 au sein d'une famille où votre père Jacques était lui-même musicien, un père qui vous rapportait de précieux trésors, des salles de spectacle où il se produisait.
Oui, ça c'est un de mes souvenirs d'enfance très précis et qui a duré longtemps. Tellement longtemps qu'en 1976, lorsque nous sommes partis à Toulouse, la chose continuait encore un peu, c'est rigolo. Mon père était donc souvent dans la fosse d'orchestre, hein, et dans les fosses d'orchestre des music halls. À l'époque, il y avait des orchestres partout, donc ça pouvait être le Lido, ça pouvait être le Moulin Rouge. Là où les danseuses ont des paillettes et des bijoux, ça pleut dans les fosses. C'est-à-dire que il y a toujours des perles qui se décrochent, des plumes qui tombent, des choses comme ça. Et mon père, à la fin des spectacles, les ramassait et me les apportait. Donc j'avais une petite boîte à chocolat. Il y en avait deux. Des boîtes en fer blanc, effectivement, dans lesquelles il y avait des chocolats qui ressemblaient à des coffres de pirates et qui étaient remplis de perles à force. Il m'en ramenait des fois des poignées entières, quoi. Donc des paillettes, des perles, des faux diamants, des faux rubis, des choses avec des choses variées. Et en 1976, donc, quand nous sommes partis à Toulouse, mon père est rentré donc à l'orchestre du Capitole. Et là, c'était dans les fosses d'orchestre des opéras. Et dans les fosses d'orchestre des opéras, il en tombe aussi des plumes et des paillettes et des perles, etc. Donc la collection a continué et puis après nous avons changé de maison à Toulouse et la boîte s'est perdue dans un déménagement comme ça arrive souvent.
Vos origines familiales sont à la fois du Limousin, à la fois de Kabylie. Votre grand-père, Lassène Noureddine, était même haut fonctionnaire de police. Est-ce que vous avez aussi songé un jour à rentrer dans la grande maison.
Oui, évidemment, ça c'était une chose que je raconte assez souvent. En fait, donc je disais tout à l'heure que quand on a 6 ans, on ne sait pas exactement ce qu'on va devenir, mais je pense que quand on en a 18, non plus. Donc on fait porter d'ailleurs aux jeunes gens un poids très très lourd, je trouve, en leur demandant de choisir à 18 ans. Mais enfin bref, ça c'est mon point de vue. Donc à 18 ans, je me demandais un peu ce que j'allais devenir. J'étais pas encore sûre que j'étais capable d'être musicienne, chanteuse, parce que d'abord je n'étais pas encore vraiment, je m'étais pas encore comment préparée à ça. Enfin, j'avais pas de répertoire, je connaissais 3 chansons et demie, etc. Bref, je passais le bac, j'allais passer le bac, et comme mon grand-père effectivement a terminé sa carrière dans la police en étant contrôleur général honoraire des renseignements généraux, il avait encore quelques amis dans la place, donc il était prêt à me pistonner en fait si je rentre dans la police pour être tranquille, pour avoir un poste de bureau quelque part et tout. Et moi en fait la police ça m'excitait bien, mais plutôt pour aller mener des enquêtes, quoi, pour le côté aventurier de la chose. Donc, je me suis renseignée sur comment on faisait pour entrer dans la police, en ayant un bac dans la poche, donc visant directement inspecteur. À l'époque, ça s'appelait comme ça, inspecteur de police. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait des conditions plus sportives, hein, on va dire, qu'il fallait courir 100 mètres en moins d'une minute ou je sais pas quoi. Donc, enfin, un espèce de truc qui n'était pas impensable, mais qui demandait quand même une certaine condition physique. Déjà, à l'époque, je n'avais pas. Et puis, moi, j'ai toujours été très Churchill pour ça. C'est-à-dire no sport, quoi. Vraiment. Alors là, de ce côté-là, c'est assumé. C'est malheureux, sans doute, mais c'est comme ça. Et donc, voilà, bah, j'ai donc renoncé directement à rentrer dans la police ce jour-là. Sans postuler, en fait.
Revenons à la musique. Au départ, il y a un instrument avec lequel vous ne développez pas une grande amitié. Et c'est un peu paradoxal quand on a la chance de vous voir sur scène aujourd'hui et puis depuis vos premières années, c'est le piano.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé avec le piano?
Je pense que c'est plus une histoire de mercredi après-midi d'enfant gâché, en fait. Et je suis encore, comme je suis très, voilà, j'ai la dent dure, alors je m'en souviens encore, et puis je le regrette encore, mais en fait, non. Et mon rapport à la musique est essentiellement, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que je découvre ça à mon âge. Parce que je propose aujourd'hui un spectacle où je suis au piano de nouveau, vraiment, et où je suis malgré tout accompagnée avec des musiciens, par des musiciens, pardon. Et effectivement, je découvre ce que je savais sans me le formuler, c'est-à-dire que mon rapport à la musique est essentiellement lié au piano. C'est-à-dire que je suis incapable d'être une... J'ai l'oreille absolue si j'ai un piano sous les mains. C'est-à-dire que j'entends quelque chose, je mets mes doigts sur le piano, c'est tout de suite ça. J'ai l'oreille absolue. Mais si vous me demandez intellectuellement le nom de la note, je suis incapable de vous le dire si j'ai pas un piano. Je chante très juste, je sais lire une partition. Je chante juste, j'ai pas besoin d'appuyer sur les notes du piano. Mais si j'ai le clavier sous les yeux, j'y arrive. Si j'ai pas le clavier sous les yeux, j'y arrive pas. C'est très très étonnant.
Et comment ça s'explique ça?
Je sais pas. J'ai un rapport avec le piano qui est très particulier, c'est-à-dire que c'est le prolongement de quelque chose pour moi plus qu'au bout des doigts. C'est vraiment mes yeux, mes oreilles évidemment, mais ouais, mes yeux, c'est visuel aussi. Si je visualise un clavier de piano, j'entends, j'ai l'oreille, je sais où on va, je connais les harmonies, bim bam boum, je retrouve tout. Parce que j'ai commencé comme ça. Je pense que j'ai été, dès que j'ai su un peu me démerder avec un piano, je pense que j'ai immédiatement cherché à reproduire ce que j'entendais et que tout est passé par là très rapidement et que donc c'est pour moi une amputation si je l'ai pas en fait. Je suis moins bonne musicienne quand je suis pas assise derrière un piano. Voilà.
Il y a une forme de don.
Il y a une forme de, peut-être de don, je sais pas, moi je dirais plutôt de chance. C'est de la chance, j'ai l'impression de mettre mes doigts au hasard, ça sonne bien, donc hop, ah, réussi. Non, je sais pas, c'est du don, c'est je suis née comme ça, enfin, je suis née là, je suis née là, c'est chez moi, voilà. Et c'est mon instrument, même si, alors on peut avoir j'ai eu envie de m'en séparer justement pendant de nombreuses années où j'ai chanté comme ça, accompagnée par des musiciens, où le piano et moi, on était assez éloignés l'un de l'autre, et mon rapport au piano était plus... Ah, je pouvais m'amuser à écrire des trucs virtuoses parce qu'effectivement, c'est pas moi qui les joue en chantant. Donc voilà. Et de fait, malgré tout, je pense qu'il me manquait quelque chose.
Comment est l'ambiance musicale chez les Noureddine? Est-ce qu'il y a une part d'Orient dans ce qu'écoute votre père, votre mère?
Alors, le nom que je porte fait qu'on me prête souvent cette ambiance orientale, etc. Il faut dire que mon grand-père a déjà pris soin d'effacer toute trace de son passé kabyle. C'est assez drôle. Mon grand-père, j'ai jamais entendu parler autre chose que français, même en famille, et surtout en famille d'ailleurs. Il avait sans doute la vie d'un petit bourgeois français, d'un petit inspecteur de police français, et puis d'un commissaire de police français, bourgeois. Petit bourgeois, quoi, voilà. Et donc, il n'y avait absolument rien d'oriental chez moi, en fait. Ni chez mon père, qui, par curiosité, pouvait écouter des chanteuses comme Fayrouz ou Oum Kalsoum, qui sont les grandes voix de l'Orient, mais des grandes voix internationales. C'est pas une connaissance particulière de la musique orientale qui fait qu'il aurait écouté des choses rarissimes et précieuse, mais pas du tout. Donc, en fait, l'ambiance musicale était plutôt latine chez moi. C'est-à-dire que la première voix chantée que j'ai entendue, c'est Carlos Gardel. Et concomitamment, si je puis dire, Amalia Rodriguez. Et puis, mon père, pour ses amours de jeunesse qui oscillaient entre le jazz et la musique brésilienne, cubaine, parce qu'il en avait joué aussi quand il était jeune, on écoutait beaucoup, effectivement, de musique cubaine, de musique brésilienne, de choses comme ça. Très peu de chansons françaises. On avait en tout et pour tout, je pense, deux disques de chansons. Trois, si je compte un 45 tours magnifique de Catherine Sauvage, reprenant des chansons de Léo Ferré. Il y avait un disque de Léo Ferré, un disque de Jacques Brel. C'est tout.
Alors, enfant, c'est évidemment à l'école que vous apprenez à lire, mais c'est votre mère qui vous apprend à lire à voix basse, pour vous-même, dans votre lit, avant de vous endormir. Quand on se penche plus en profondeur sur votre discographie et vos écrits, la littérature et les aventures des personnages littéraires me paraissent comme une source inépuisable d'inspiration pour vos chansons.
C'est absolument inépuisable dans la mesure où souvent tout a été dit, tout a toujours été dit, et que d'abord les personnages existants des romans sont des sources inépuisables d'inspiration, mais également la construction littéraire d'une œuvre littéraire, c'est-à-dire la conscience que une nouvelle, par exemple, de Maupassant commence à un moment A et finit à un moment B. Ce qui se passe avant, ce qui se passe après, on ne sait pas. Ça sera sous-entendu dans peut-être. Ou pas, parce que c'est peut-être pas important dans le développement de l'histoire. Écrire une chanson, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est prendre un moment A, arriver à un moment B, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, on s'en fiche un peu. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment on arrive de l'un à l'autre. Et cette chose-là, ça s'appelle effectivement une construction littéraire, ce qui fait que les premières chansons que j'ai pu écrire étaient sans doute assez verbeuses, parce qu'elles obéissaient à cette volonté de vouloir en dire beaucoup sur ce qui se passe avant le moment A, en fait. Et qui est un défaut, à mon avis, en chanson, qui n'est pas un défaut en littérature.
À l'adolescence, vous quittez Paris pour vous installer à Toulouse avec vos parents. Comment est-ce que vous vivez ce changement de ville, mais aussi d'ambiance?
Alors, en perspective, je vis ça assez mal parce que je vais quitter la banlieue parisienne. J'habite à Suresnes à l'époque. Je vais au lycée à Suresnes. J'ai des copains et des copines et des profs et un itinéraire familier, une vie quotidienne simple, réglée comme du papier à musique. Et là, c'est l'inconnu. Et c'est l'inconnu qui fait peur parce que c'est un vrai changement de civilisation, hein, j'ai envie de dire. Enfin, on part dans le sud, on part à Toulouse. À Toulouse, dans les années, on part en 1976. Donc en 1976, Toulouse, c'est pas exactement ce que c'est aujourd'hui non plus. C'est une ville beaucoup plus provinciale, très enclavée. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'avion. Il y a des avions, bien sûr, mais enfin, c'est pas grand public. C'est pas accessible facilement, donc c'est un vrai changement de vie. On va quitter ce qu'on connaît, etc. Et puis après, quand j'arrive, en fait, je trouve une civilisation très affectueuse, en fait, excessivement affectueuse. Chose on n'est pas habitué en banlieue parisienne à ce côté affectueux. Voilà, je peux pas dire autrement. Les gens sont plus qu'aimables, ils sont affectueux.
Gratuitement.
Gratuitement, ils sont gentils. Quand vous leur la première impression qu'on a, je me souviens que ma mère, on va faire des courses et puis les gens, quand on leur dit merci, ils vous disent avec plaisir. C'est une expression, c'est très toulousain à l'époque, ça avec plaisir. Et voilà. Et alors, je trouve à la fois une ville affectueuse, des gens liants très facilement. C'est rigolo parce que Moi, je suis petite parisienne qui arrive dans un collège avec des Toulousains qui se connaissent depuis toujours, qui ont fait toute leur scolarité ensemble. Donc, vous êtes un peu l'étranger qui arrive et puis parisien. Alors, d'un seul coup, on pose des questions. Mais alors, toi, tu es à Paris, alors tu connais François? François qui? C'est rigolo parce qu'il y a un côté comme ça, mais c'est des gosses, hein, on est des gosses, on a 14 ans, 13, 14 ans. Et Paris semble une espèce de chose un peu mythique encore. C'est loin, quoi, c'est vraiment loin. Et donc, voilà, je construis une ville vachement agréable, en fait, à cette époque-là, parce que je découvre une forme d'autonomie. Je vais au collège toute seule, j'ai un Solex assez rapidement pour aller au collège, parce je traverse toute la ville quasiment. Donc, c'est des moments formidables, ça, pour moi, c'est des souvenirs absolument merveilleux. Les souvenirs de ce collège, du lycée, après, ça a été une époque absolument formidable. Une époque gentille, je peux pas dire autrement. Nonchalante et gentille.
Donc vous oubliez assez vite
Ah,
Paris, en
pas très,
fait.
très rapidement. Très, très rapidement. Pour moi, Paris, après, je viens un peu en vacances, voir ma grand-mère qui est toujours à Paris, et puis, enfin, en banlieue parisienne. Et puis je revois mes copains, on fait un peu les 400 coups comme on fait quand on est ado. Mais voilà, j'ai plus envie de cette vie de banlieue, connaissant la ville de Toulouse et la vie à Toulouse. D'un seul coup, cette espèce de grande ville un peu. Ça reste quand même une grande ville, hein, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a une forte population étudiante déjà à l'époque, enfin, c'est assez important. Donc c'est une ville qui vit dehors, qui vit la nuit, qui vit à l'espagnol. C'est complètement dépaysant et en même temps, je crois que je ne peux pas m'en passer, mais je ne peux pas m'en passer encore aujourd'hui. C'est-à-dire une vie comme ça, c'est toujours. Ouais, il n'y a pas le même rythme, il n'y a pas le même nombre d'heures dans une journée, en fait, à Toulouse.
À Toulouse, votre père Jacques intègre en 1976 l'orchestre du Capitole, un père qui est resté très discret sur ce qu'il faisait dans la musique.
Alors en fait, voilà, il ramenait pas trop son travail. Enfin, il ramenait son travail à la maison. Je l'entendais beaucoup travailler ses instruments. Mais tant qu'il était à Paris, je savais ce qu'il faisait. Hein. Je savais qu'il jouait à la radio, qu'il jouait à la télé. Je le voyais à la télé assez régulièrement. On peut le voir encore sur des images de Lina dans l'orchestre de. Je crois que c'était Pierre Porte qui était souvent accompagnateur de beaucoup de gens dans le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Mais quand j'étais petite, il était dans l'orchestre de la Piste aux Étoiles. Donc voilà, je savais quand même ce que faisait mon père, mais. Disons que ses copains, je connaissais les noms parce que je l'entendais en parler, mais il faisait pas des boeufs à la maison avec ses potes. Ça allait comme ça. Il jouait déjà 15 heures par jour, donc je pense que ça devait aller pour lui. Et puis j'ai découvert en fait réellement l'estime musicale qu'on lui portait, l'estime aux musiciens. Évidemment, humainement, il était très aimé parce que c'était un rigolo. Et donc, mais l'estime qu'on lui portait comme musicien, quand je suis arrivée à Paris, en tant que chanteuse, et quand j'ai commencé à rencontrer des gens de la profession, dont je me souviendrai toujours, c'est ma rencontre avec François Robert, donc, qui était l'arrangeur de Jacques Brel. En l'occurrence, on devait faire un concert, il était accompagnateur et arrangeur, sur un concert de Juliette Gréco à Bourges. Et je devais chanter une chanson dans une première partie, il y avait multiples chanteurs, en hommage à Juliette Gréco. Et François, on se rencontre chez lui pour des tonalités de chansons, enfin de répétitions, etc. Et je lui dis que je suis la fille de Nounours, je suis la fille de. Parce que mon père, son surnom, c'était Nounours. Et là, je me souviens qu'il a changé du tout au tout. Il m'avait déjà entendu chanter, il me respectait comme chanteuse, mais voilà, j'étais une débutante,
Il n'a pas fait
etc.
le lien.
Il savait pas. Et quand je lui ai dit ça, il a immédiatement pris son téléphone et il a appelé trois ou quatre survivants là, de l'époque de mon père pour leur dire qu'il m'avait en face et que j'étais la fille de Nounours. Et on en a parlé, d'ailleurs on a bu des whisky. Je suis repartie, j'étais un peu ronde comme une queue de pelle, mais c'était drôle. Voilà, la première rencontre avec François Robert, c'était très très émouvant. C'était très touchant pour moi. Parce que c'est la première fois que moi, quelqu'un que je connaissais, enfin François Robert, c'est mon idole absolue en termes d'arrangement, de musicien et tout, de chansons, et pas que d'ailleurs. Et effectivement, de voir cet homme que j'admirais complètement me parler de mon père avec des larmes dans les yeux et me dire quel grand musicien c'était, ça m'a encore plus bouleversé, quoi. Voilà.
Toulouse, c'est la ville des Négresses Vertes, de Zebda, de Claude Sicre et ses fabuleuses troubadours, mais aussi de Claude Nougaro. Comment Toulouse a-t-elle participé à votre éducation musicale et à votre formation culturelle?
Je pense que si on est nombreux, Claude, même si on a trouvé des voix différentes, Claude Sicre, Zebda, on est de la même génération, si on a trouvé comme ça des voix différentes, c'est parce qu'à Toulouse, il y avait une possibilité de diffusion. C'est ballot, mais si vous êtes chanteur dans votre salle de bain, vous n'allez pas toucher un public énorme. Si vous avez des bars ouverts tous les samedis soirs, dans lesquels, pas seulement le samedi soir d'ailleurs, dans lesquels on fait de la musique, dans lesquels il y a du public, il y aura forcément de la demande et donc de la proposition. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y avait une vie très très riche parce que on était dans une espèce de logique. Attendez, on était payé au lance-pierre. Il n'était pas question de faire des cachets d'intermittence, etc. C'était du black. Et ça marchait comme ça. Il y a eu effectivement des contrôles après qui se sont multipliés, etc., qui ont fait qu'il y a pas mal de gens qui ont dit ça va trop d'ennuis avec l'URSSAF, on va arrêter les concerts sauvages. Mais effectivement, il y avait cette espèce de chose dans les années 80 qui était énorme, quoi, en fait. Une proposition énorme. Et c'était très... sans doute parce que c'était loin de Paris aussi. On avait aussi l'Espagne pas loin. Il y avait Barcelone qui est moins loin de Toulouse que Paris, quand même. Donc, il y avait aussi cette... Pas habitude, mais enfin, cette curiosité et cette envie d'être un peu comme en Espagne, comme à Barcelone, sur les Ramblas, comme cette vie qui commençait à devenir complètement foisonnante. Dans les années 80, on est en pleine movida espagnole, donc Barcelone, vous imaginez, c'est la capitale du monde, quoi. C'est la capitale, en tout cas de l'Europe du Sud, ça fait aucun doute. Et effectivement, je pense qu'aussi, il y a ce côté, ok, on est loin de Paris, on n'a pas besoin de vous, quoi, en fait, un petit peu, on va se débrouiller. Et en même temps, il y a une espèce de, comment on appelle ça, de locomotive qui se met en marche autour du printemps de Bourges, et qui est le réseau printemps, c'est-à-dire effectivement des gens qui, dans chaque région, commencent à dire « mais nous, on a des tas de talents, il faut juste qu'on vous les montre ». Et où est-ce qu'on peut vous les montrer? On va vous les montrer au Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges commence à porter cette chose-là, de dire « on va faire venir des indés ». Ça s'appelle pas comme ça, mais on va faire venir des indés. Donc des producteurs locaux, des gens qui repèrent des artistes, qui les envoient dans cette sélection, et qui fait que on a en Rhône-Alpes des gens qui arrivent, on commence à entendre parler de, je sais pas moi à l'époque, je vais pas avoir de nom parce qu'en général quand je cherche, mais des gens, bon, l'affaire Lustrio, ils commençaient déjà à se faire entendre à la télé, à la radio. Mais voilà, des gens comme ça. Je me rappelle, on avait dans la fournée de 86, il y avait Pauline Esther. Donc Pauline Esther, elle a été repérée là par Polydor. Elle a exactement été repérée au Printemps de Bourges, et c'est comme ça qu'elle a fait son début de carrière fracassant. Et effectivement, ça, c'était un truc où il y avait, en plus, il y avait tous les genres. Il y avait des groupes de rock, il y avait des groupes qui faisaient de la chanson, mais de la chanson un peu rock, quand même la chanson française, mais un peu rock, etc. C'était le début aussi des Têtes Raides. On est de la même génération.
Alors en 1980, vous passez votre baccalauréat, vous faites des études de lettres modernes, puis de musicologie. Et c'est aussi en parallèle à ces expériences que vous lancez dans le grand bain musical, en reprenant au piano et au chant les standards de Brel ou Piaf. On est au cœur de Toulouse, dans le quartier populaire d'Arnaud Bernard. Le restaurant s'appelle le Méchant Loup et le piano bar l'Éclusanne.
Alors, l'Éclusanne, c'est après, en fait. L'Éclusanne, c'est un café-théâtre, et ça sera un peu plus tard. Là, c'est le piano-bar s'appelle le piano-bar, en fait. Hein. Donc, j'ai deux postes. En fait, je traverse la place Arnaud Bernard pour aller de l'un à l'autre. Je commence mes soirées au piano-bar, je continue au Méchant Loup, et je finis ensuite de nouveau au piano-bar. Je gagne bien ma vie à cette époque-là, parce que c'est pareil, c'est payé au black, mais c'est très très bien payé, donc je crame un fric monstrueux. Enfin, j'ai une espèce de vie de patachon de 20 ans, patachon, c'est vachement bien. Après, ça sera plus compliqué quand je vais commencer à me produire sous mon nom, en fait, et puis à essayer de devenir... d'avoir une identité artistique, en fait. Parce que là, effectivement, vous le dites, je suis en train de faire des reprises, je joue du piano, je chante des chansons qui m'amusent beaucoup, parce que j'ai vite compris que les gens qui venaient au piano bar, c'était pour être divertis, c'était pas pour qu'on les emmerde avec des états d'âme. Donc de temps en temps, on pouvait chanter une chanson un peu triste à condition qu'elle soit connue, mais effectivement, il fallait plutôt des choses fantaisistes. Donc mon répertoire oscillait effectivement en piano bar plutôt autour de Bobby Lapointe et Boris Vian, même s'il m'arrivait après de faire un peu chanteuse à voix, parce que j'avais cette possibilité physiquement, donc je faisais chanteuse à voix, donc je reprenais des standards de Piaf. Je m'accompagnais relativement bien au piano. Voilà, j'aimais bien un peu compliquer les choses et tout, donc ça avait de la gueule un peu quand même. Mais ça reste une expérience de laquelle j'ai pas de mauvais souvenirs non plus en fait, parce que c'est très formateur d'abord de jouer devant des gens qui s'en foutent la plupart du temps, parce que même s'ils veulent être divertis, c'est quand même un fond sonore. Donc d'essayer d'arriver à en faire un spectacle, hein, c'est ce que j'arrivais à faire au bout d'un moment, c'est-à-dire que quand j'allais jouer, il y avait une captation de l'auditoire vraiment. Enfin, j'ai travaillé à ça, quoi, arriver à les intéresser à ce que je faisais dans une population qui était plus venue pour le bar que pour le piano. Donc ça fait partie des choses qui sont très très formatrices en fait. Après, vous n'avez pas trop de problèmes après quand on rentre dans les cafés théâtres. Et c'est plus tard, vers les années 82, 83, que j'ai commencé à jouer à l'Éclusane, qui là était un café théâtre, donc on venait plus écouter des artistes que boire des bières, même si on buvait des bières.
Beaucoup.
Ça dépendait des jours quand même.
Merci beaucoup Juliette, on se retrouve demain pour continuer d'égrener ensemble vos souvenirs. On se quitte en musique avec un titre de Bobby Lapointe, Sentimental Bourreau, repris par vous en 1991 sur votre album Quétal.
Il était une fois un beau petit bourreau, pas plus haut que trois noix et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs, et pour les basses œuvres était à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève, il faisait son boulot. Allez à toi, petit bourreau! Pour autant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal. Sentimental bourreau! Aïe 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 aïe! Un jour de son balcon, la femme du fossoyeur, elle a l'homme de tête et lui ouvrit son cœur. Depuis longtemps, ce frais de transports amoureux, à vous veut me livrer au bourreau vigoureux. Je vous lance une corde du haut de mon balcon. Grimpez-y, c'est d'un ordre. Allons, exécution, exécution. Pourtant, couper des têtes, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal. Sentimental bourreau, aïe aïe aïe, 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 aïe. À partager sa couche, la belle l'invita. En quelques coups de hache, il la lui débita. L'époux, au bruit du bruit, survint un peu inquiet. Il partagea le mari pour garder sa moitié. Et comme la dame inquiète suggérait, taillons-nous, taillons-nous. Il lui trancha la tête et se coupa le...
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Juliette. À Voigny, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Sandrine Malon, coordination Claire Poinsignon. À Voigny s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.
Oh, c'est dégoûtant comme chanson, je suis d'accord avec vous. Hein. Et en plus, ça n'en finit pas, c'est affreux. Allez, je trouve la note et on n'en parle plus, c'est fini.
Merci.